Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hugo Darissoglou et comme chaque semaine, je vous propose un tour de l'actualité internationale et française. Cette semaine, la disparition du réalisateur multi-récompensé Bertrand Tavernier, la vie politique française sous la menace de l'extrême droite, le pape François Ier taille dans les salaires des cardinaux et l'Église française décide de l'indemnisation des victimes de prêtres pédophiles. Pendant ce temps, l'affaire Pierre Ménès secoue les médias sportifs français, la Birmanie à feu et à sang à nouveau. Alexei Navalny accuse la Russie de torture et le canal de Suez bloqué après l'avarie d'un porte-conteneur. Enfin, pour terminer, début d'éclaircies sur le front de la pandémie de Covid-19 et la page sportive avec le résultat final du tournoi des 6 nations, le début poussif des Bleus de Didier Deschamps dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et le début de la nouvelle saison de sport mécanique F1 et moto. Pour commencer, le monde du cinéma en deuil depuis jeudi après l'annonce de la disparition du réalisateur Bertrand Tavernier. L'âge de 79 ans, c'était jeudi. Fils de l'écrivain et résistant lyonnais René Tavernier, il a réalisé des films au succès populaire et critique comme Le Juge et l'Assassin, Coup de Torchon et Capitaine Conan. En termes de récompenses, il avait reçu en 1976 et 1977 le César du meilleur scénario original pour Que la fête commence et Le Juge et l'Assassin. Il avait également remporté la statuette de la meilleure réalisation pour le premier nommé ainsi que pour Capitaine Conan en 1997. Enfin, il avait réussi à porter celle de la meilleure adaptation pour Un dimanche à la campagne en 1985. À l'international, Bertrand Tavernier avait reçu un BAFTA du meilleur film étranger pour La vie et rien d'autre en 1990, ainsi que l'Ours d'or à Berlin pour L'Appât, sorti en 1995. Samedi sanglant en Birmanie, la junte militaire a encore réprimé dans le sang les manifestations contre le coup d'état militaire. 90 personnes, dont une fillette de 1 an et une adolescente de 14 ans, ont perdu la vie, ce qui porte le bilan de la répression à 423 morts depuis le 1er février. La communauté internationale réagit par la voix de 12 états-majors militaires et du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui s'est dit horrifié par la terreur que font régner les militaires birmans. Son homologue britannique Dominic Raab a parlé d'un nouveau cap franchi dans la répression. En Russie, l'état de santé de l'opposant Alexei Navalny inspire l'inquiétude. 3 mois après son arrestation à la descente de l'avion qui le ramenait d'Allemagne, l'avocat opposant principal du Kremlin affirme être victime de torture par privation de sommeil. Emprisonné dans la région de Vladimir, à une centaine de kilomètres à l'est de Moscou, il serait réveillé plusieurs fois par nuit selon un courrier adressé aux autorités. Son avocate réfute les déclarations du Kremlin et dit craindre pour la vie de son client. Après une semaine de blocage, le canal du Suez en passe d'être de nouveau opérationnel. Le porte-conteneur de 400 mètres de long qui s'était mis en travers lundi dernier était en passe de reprendre sa route vers la Méditerranée ce lundi matin. La cause de l'accident pourrait être le vent couplé à une tempête de sable. L'Action française à l'assaut de la démocratie française. Les partisans du mouvement royaliste et antisémite ont tenté de s'introduire dans l'hémicycle du Parlement régional d'Occitanie à Toulouse, jeudi 25 mars. Les 8 militants se sont introduits dans les locaux de l'hôtel de région au cri de « À mort les islamo-gauchistes » et y ont amené une banderole où était inscrit le slogan « Islamo-gauchiste traître à la France ». Ils ont été maîtrisés par le service de sécurité et ont revendiqué leur geste en qualifiant les élus de « cheval de Troie » de l'islamisme et de l'immigration. La présidente de la région, la socialiste Carole Delga, a annoncé sa décision de porter plainte. La crise économique et sanitaire pousse le pape François à réduire les salaires des cardinaux pour préserver l'emploi au Saint-Siège. Selon l'agence Reuters, le souverain pontife a décidé de réduire de 10% les revenus des 227 cardinaux, touchés entre 4 000 et 5 000 euros mensuels en plus des avantages en nature, comme les logements de fonction. Le Vatican fait face à un déficit de près de 40 millions d'euros en raison de la pandémie qui le prive de la manne financière que représente le tourisme, et ses 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. L'Église catholique consent à mettre la main à la poche pour indemniser les victimes de prêtres pédophiles. L'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France, réunie à Lourdes ce vendredi, a annoncé une série de 11 résolutions dont la création d'un fonds d'indemnisation des victimes. Doté de 5 millions d'euros, elle permettra, après l'étude des dossiers par une commission indépendante du clergé, d'indemniser les victimes d'abus sexuels. Par ailleurs, les responsables religieux ont annoncé la création d'un tribunal pénal canonique, ainsi que 2 mesures symboliques. Une journée de mémoire et de prière sera respectée chaque 12 mars à partir de l'année prochaine, et un lieu de mémoire pour les victimes d'abus sexuels sera érigé, probablement à Lourdes. Interrogé par nos confrères de France Bleu, le président de l'association de victimes Parler et Revivre, Olivier Savignac, a parlé de moments historiques et salué la volonté de transparence, de vérité et de coopération. Semaine agitée pour les rédactions des chaînes Canal+ et Bein Sport. Pierre Ménès, intervenant vedette de l'émission Canal Football Club, a été mis en cause dans plusieurs scènes du documentaire de Marie Portolano « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » pour des gestes et des propos déplacés à l'encontre de plusieurs de ses collègues sur le plateau de l'émission. Diffusé le week-end dernier mais amputé des séquences accusant le journaliste de la chaîne cryptée, le documentaire a provoqué l'ouverture d'une enquête interne. Du côté de la concurrence, Alexandre Ruiz a annoncé le 22 mars qu'il quittait son poste chez beIN Sports officiellement pour se lancer sur la plateforme Twitch. Mais selon Ilyes Ramdani de Mediapart, le journaliste football aurait démissionné à la suite d'un avertissement de sa direction concernant son attitude toxique envers plusieurs de ses collègues des deux sexes. Deux bonnes nouvelles sur le front de la pandémie de Covid-19. L'Agence européenne du médicament a autorisé le transport et le stockage des doses du vaccin Pfizer-BioNTech à la température des congélateurs pharmaceutiques standards, c'est-à-dire entre moins 25 et moins 15 degrés Celsius. Cette période ne devra pas excéder 2 semaines, mais elle facilitera la bonne conduite des campagnes de vaccination, alors que le laboratoire américain prévoyait un matériel spécial pouvant descendre à moins 90 degrés. La France doit recevoir 23 millions de doses de ce vaccin d'ici à la mi-mai. La page sportive pour terminer, le 15 de France échoue à remporter le tournoi des 6 nations. Les hommes des Fabien Galthié se sont inclinés face à l'Écosse 27-23 en match en retard vendredi soir au Stade de France. Ils devaient marquer 4 essais et l'emporter de 21 points, mais terminent deuxième derrière le Pays de Galles. Ce samedi 3 avril débutera l'édition féminine. Les joueuses coachées par Annie Kirou recevront le Pays de Galles. Coup d'envoi à 21h au Stade de la Rabine à Vannes. En football, les joueurs de Didier Deschamps ont entamé de manière poussive les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les champions du monde en titre ont d'abord trébuché face à l'Ukraine mercredi au Stade de France, match nul 1 partout, avant de revenir du Kazakhstan avec un succès 2-0 dans la besace. Avant de retrouver leurs clubs respectifs, les Bleus ont rendez-vous avec la Bosnie-Herzégovine, mercredi à Sarajevo, coup d'envoi 20h45. Au classement, la France est en tête du groupe D avec 4 points devant la Finlande et l'Ukraine, 2 unités. C'est parti pour la nouvelle saison de sport mécanique. Les championnats du monde de Formule 1 et de MotoGP ont repris leurs droits ce dimanche, respectivement à Bahreïn et au Qatar. Sur 4 roues, c'est le septuple champion du monde, l'anglais de Mercedes Lewis Hamilton, qui a remporté la première course en devançant le néerlandais de Red Bull Max Verstappen et son coéquipier le finlandais Valtteri Bottas. Côté français, l'alpine d'Esteban Ocon termine 13e, Pierre Gasly a été contraint à l'abandon. En MotoGP, le premier succès de la saison est revenu à l'espagnol Maverick Viñales sur une Yamaha officielle. A noter les bons résultats des bleus, Johan Zarco et sa Ducati terminent 2e, Fabio Quartararo sur la 2e Yamaha échoue au 5e rang. Prochain rendez-vous le 18 avril à Imola pour la F1 et ce dimanche pour les motos sur le même circuit de Doha. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle piqûre de rappel de l'actualité.